Mesdames et messieurs, c'est maintenant commencé la 60e année depuis que le peuple cruel et féroce de la nation vandale a atteint le territoire de la malheureuse Afrique. Ainsi débute l'œuvre de Victor de Vita qui nous donne les renseignements les plus détaillés sur le roi vandale unirique. Se trouvant au centre de la leçon d'aujourd'hui, que se passait-il dans le royaume vandale au niveau de la politique ecclésiastique? Quels étaient les buts du roi dans ce domaine? Quels étaient ses succès et ses échecs? Victor porte ici un regard rétrospectif sur la conquête de l'Afrique par les Vandales en 89. Mais ce n'est pas son but principal. Déjà dans cette première phrase de son histoire de la persécution en Afrique au temps des Vandales, les adjectifs crudelis et sévus donnent le ton du récit, décrivant les persécutions de l'Église catholique par Unirique, qui obtiendra par ce biais son titre de roi persécuteur. Le récit sur les années 80 du 5e siècle commence ainsi. Donc, après avoir rapidement éliminé tous ceux qu'il redoutait et s'efforçant ainsi de consolider, du moins le croyait-il, un règne qui fut en fait court et fragile, désormais tranquille et assuré de tous côtés, tel un lion rugissant, il tourna toutes les armes de sa fureur contre l'Église catholique pour la persécuter in persecutionem. Cette phrase est caractéristique du récit de Victor et elle illustre les problèmes auxquels l'historien se voit confronté lorsqu'il manipule cette source. Car si Unirique a été celui qui commença une persécution violente, on se demande quelles raisons ont pu le pousser à faire ce que son prédécesseur n'avait pas fait dans cette dimension. Il s'agit donc de comprendre, mais ce n'est pas le but envisagé par Victor. La seule raison qu'il apporte pour la persécution est la fureur du roi et l'image biblique du lion rougissant du diable. Le récit reprend cette thématique sous des formes diverses et variées, mais la question historique du pourquoi n'est pas posée. Cette question historique nous amène à reconsidérer les années de la conquête vandale de l'Afrique. Elle était caractérisée par des agressions contre les églises, les monastères et les clergés, interprétables comme des tentatives de forcer les membres de la couche possédante à l'aliénation de leurs trésors. Mais les sévices et les violences avaient aussi une valeur démonstrative, comme le montre un passage où l'on apprend que les nappes des autels furent transformées en pantalons. Pour expliquer cet aspect religieux de la violence, non pas le comportement violent imputé à la bête humaine, mais ce surplus particulier, il faut commencer par la christianisation des Vandales. Notre déplorable manque d'informations sur les aspects fondamentaux de l'ethnogénèse vandale est relevé par le fait que nous n'avons aucune certitude sur la rencontre de cette gens avec le christianisme. Il est admis que les Vandales étaient chrétiens lorsqu'ils arrivèrent en Afrique et qu'ils avaient une conception éminemment belliqueuse de leur élection divine. En 422, les Vandales avaient affronté le général romain Castinus lors de la bataille décisive en Andalousie à l'aide de l'écriture sainte portée en avant tel un talisman. Que les Vandales ne soient seulement dérobés de cette situation périlleuse, les troupes romaines les avaient cernés et il n'y avait pas d'aide en vue, mais qu'ils sortirent vainqueurs de la bataille a dû apparaître comme un miracle. Et comme souvent, la situation miraculeuse a poussé les vainqueurs à croire d'être les envoyés de Dieu. L'idée d'une mission divine est attestée maintes fois pour leur règne en Afrique. Dans son œuvre De Gubernatione Dei, le gouvernement de Dieu, un prêtre contemporain, Salvien de Marseille, complimente les Vandales pour leur conviction et l'oppose à l'indifférence des chrétiens, de la Romanitas. Mais le témoignage d'Orose pour l'année 414 va à l'encontre de ceci. Dans sa province natale de Galicie, il qualifie les Vandales infideles, donc clairement des païens. Imaginer une telle conversion totale en 7 ans seulement est difficile, et ainsi une christianisation par étapes et une adoption successive du christianisme par les diverses couches sociales ne semble plus probable. Au IVe siècle, en Europe centrale, une partie des Vandales avait déjà, à mon avis, embrassé le christianisme. Sous l'influence de leurs voisins, les Goths, ils adoptèrent une variante du christianisme qui remonte à la conception hiérarchisée de la Trinité du théologien Arius, qui enseigne que seul Dieu le Père est éternel, le Fils et son subordonné le Saint-Esprit sont créés. Dès le premier concile écuménique, en 325, cette variante fut qualifiée d'hérésie par ses adversaires et appelée arianisme. Pour les Goths qui découvrirent cette théologie au milieu du IVe siècle, par l'intermédiaire du célèbre apôtre gothique, évêque et traducteur Wulfilla, l'arianisme était tout simplement la théologie chrétienne. Cette interprétation était alors prédominante dans les provinces orientales de l'Empire. Les Goths prirent conscience plus tardivement que l'Empire romain avait emprunté une autre direction sous l'empereur Théodose. La christianisation des Goths débuta au temps de Constantin et ne s'effectua pas du haut vers le bas, comme chez d'autres gentes germaniques, mais progressa depuis les couches inférieures de la société. Par conséquent, certaines réactions de défense de la classe supérieure ont pu conduire à la persécution des chrétiens chez les Goths. Dans ce contexte, ou à la suite d'autres contacts, certains Goths chrétiens sont allés à la rencontre des Vandales et en apportant leur croyance et la Bible de Wulfilla. Toutefois, à l'instar de la société gothique, la classe dirigeante vandale resta sûrement fidèle aux anciennes traditions religieuses. Lors de leur mouvement vers l'ouest, on peut supposer que les Vandales païens et chrétiens voyagèrent côte à côte. En parenthèse, c'est pour cela que l'idée d'une royauté sacrée est inconcevable pour les Vandales. Au plus tard, avant la bataille de 422, cette situation évanouit. Malheureusement, nous n'avons que très peu d'informations sur les années en Espagne. Et pour reconstruire les événements, nous devons nous baser sur des hypothèses. Une conversion du roi ou de la famille royale peu avant la bataille de 422 expliquerait bien, à mon avis, comment le roi Genséric obtint le consentement unanime pour ce changement religieux radical, même parmi les partisans des cultes antérieurs et non chrétiens. L'argument d'un Dieu chrétien sauveur du danger et protecteur lors du combat était en mesure de convaincre les Vandales. C'est déjà ainsi que les auteurs chrétiens avaient compté la bataille du pont Milvius 100 ans auparavant, et que Clovis l'avancera à la fin du siècle lors d'une bataille contre les Alamans. Cette hypothèse est en accord avec les propos postérieurs de Genséric, qui prôna que Dieu en personne lui avait confié les terres africaines. Nous saurions sûrement davantage sur cette conversion si un historien romain s'était intéressé aux Vandales, mais ce n'est malheureusement pas le cas. La prochaine leçon sera consacrée à la question pourquoi un Grégoire de Tours ou un Cassiodore Vandal n'a jamais existé. Toutefois, il est vrai que la conception religieuse particulière du peuple vandal peut apporter une explication à la dimension violente de la conquête africaine. En 50 ans, les Vandales ariens avaient certainement appris que leur confession, l'organisation de leur clergé, etc., divergeait de la version romaine. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Notons ici que l'opposition religieuse s'accorde bien avec le contexte de la conquête d'une région où l'Église catholique était une structure élémentaire du pouvoir à renverser. Depuis notre perspective actuelle qui tend à ramener les convictions religieuses à leur fonction, le soupçon s'éveille que les dirigeants vandales ont forgé cette arme idéologique de manière ciblée. En d'autres termes, le roi avait préparé le changement de confession en vue de la conquête, mais notre vision moderne nous conduit ici en erreur. Les anciens étaient tout à fait en mesure d'identifier une conversion instrumentalisée par le pouvoir, et aucun des nombreux critiques romains de Jean Séric n'a remis en cause les convictions religieuses de ce dernier. Inversement, il serait naïf de croire que le roi ne réalisa pas les avantages que lui procurait l'opposition religieuse entre Vandales et Romains, ou qu'il ne tenta pas de la mettre à profit. Comme on le sait, la religion et sa mise en profit politique allaient de pair dans l'Antiquité. La semaine dernière, j'ai mentionné la volonté de Jean Séric de concentrer et de délimiter le peuple vandale en Afrique du Nord, aussi bien au niveau de ce que nous appelons aujourd'hui la construction d'une identité qu'au niveau territorial. Les guerriers vandales obtinrent des terres dans l'arrière-pays fertile de Carthage et restèrent regroupés. Ainsi, leur mobilisation était rapide en cas de besoin et ont évité leur dispersion parmi la population provençale en bien plus grand nombre que les vandales. Telles avaient apparemment été les intentions du roi. Cet arrière-plan est essentiel pour comprendre la politique ecclésiastique de Jean Séric. Dans les circonstances sudites, l'opposition de l'Église catholique lui était garantie, et il ne tenta pas de gagner l'épiscopat pour sa cause, mais de l'écarter d'une part et de le contenir de l'autre. Les prédications subversives et les contacts ennemis étaient interdits de principe et puni dans les régions contrôlées par le pouvoir royal. Mais une vaste arianisation n'était pas prévue. Toutefois, celui qui souhaitait agir dans l'entourage du roi avait tout intérêt à prouver sa loyauté par la conversion. De plus, des mesures de répression furent mises en place sur les terres directement occupées par les vandales, dites « sortes vandalorum », pour empêcher toute tentation catholique, des expropriations systématiques signifiant l'aliénation des églises et leurs possessions furent décidées, ainsi que l'interdiction d'élire un nouvel évêque sur un siège vacant. Le sort de l'Église catholique dans le reste du pays était réglé au cas par cas ou selon une stratégie élaborée par le roi, notamment en fonction des relations avec Constantinople. Lorsque Victor de Vita prétend alors qu'Hunneric abandonna cette politique et accuse le roi dans une histoire de la persécution, il convient tout d'abord d'évaluer précisément son œuvre et sa valeur historique. Victor, membre du clergé carthaginois et originaire de Vita ou Vitae dans la province africaine byzacène, composa son œuvre entre 187 à 9, 60 ans après le débarquement des Vandales en Afrique. Ce récit est l'unique source littéraire que nous possédons à ce propos, à l'exception des guerres africaines du Byzantin Procope, qui ne dit que quelques mots là-dessus. Pour l'histoire actuelle, il est bien fâcheux que Victor n'écrivit pas une histoire du règne vandale en Afrique. À cet égard, l'appellation Historia est trompeuse. Le véritable objectif était de dénoncer une politique anticatholique du point de vue d'une victime et de dépeindre les martyrs et leur vocation. L'auteur souhaitait non seulement plaider la juste cause, mais il était également l'intention de rappeler de manière détournée à l'empereur les devoirs de protection qu'il avait envers les catholiques africains et de le pousser subtilement à une intervention. Une demande expressis verbis était impossible car l'auteur vivait sous l'autorité des vandales. Un appel à l'aide ouvert n'était pas toléré et considéré comme de la haute trahison. Une question essentielle qui se pose à la lecture de l'Historia Persecutione, c'est évidemment celle de la crédibilité. Généralement, on est d'accord que le récit de Victor ne doit pas être pris pour argent courant. Ces constats, en partie véridiques, ne nous amènent pourtant à presque rien. Que faut-il alors soustraire au récit pour se rapprocher de la réalité? Depuis le XIXe siècle, on a tendance à interpréter les tortures et les exécutions comme des exagérations. La brutalité apparaît généralement suspecte aux historiens des temps heureux, notamment dans le cas des légendes des martyrs du Moyen Âge. L'effort de libérer le peuple vandale du reproche tout à fait non historique du vandalisme a certainement joué un rôle, mais d'autres courants s'attachent. Mais il est révélateur cependant que, malgré d'intenses recherches, il n'existe aucune preuve factuelle que Victor rapporte une version fictive des événements. Bien au contraire, il faut partir du principe que Victor reste fidèle à ce qu'il a vu, entendu ou lu. Certes, en ce qui concerne les discours dans son récit, nous ne pouvons pas nous attendre à autre chose que l'usage en vigueur depuis longtemps en historiographie antique. Le public voulait savoir si l'auteur était apte à présenter avec empathie suffisante des chefs-d'œuvre de littérature. Mais lorsque l'auteur mentionne des noms, des chiffres ou des faits vérifiables, il travaille avec précision, il nomme des témoins, etc. Ceci est vrai cependant uniquement pour les cas précis. Au-delà, il fait référence à un grand nombre ou d'innombrables autres exemples sans apporter et apparemment sans avoir de preuves concrètes. Il faut donc rester prudent. De la même façon, ces interprétations et ces conclusions sont douteuses, notamment pour expliquer les motivations des persécuteurs. Victor n'écrivait pas simplement et seulement pour le moral de ses lecteurs, mais il suivit un but précis qu'il ne pouvait réaliser qu'en utilisant les informations les plus exactes possibles afin de satisfaire un public en partie très bien instruit des faits. Ainsi, cette œuvre est un livre noir des crimes vandales, vérifiable dans le détail, mais conçu dans l'ensemble comme acte d'accusation. Essayons donc de reconstruire les étapes de la politique de persécution de ce roi, quoi qu'il soit sa qualité. Dans un premier temps, Huniric suivit en matière religieuse en effet la voie de détente empruntée par son père. Il fit des efforts pour avoir des relations détendues avec Constantinople et autorisa même la remise en place d'un évêque catholique à Carthage. Puis, il opère un revirement radical. Comme il a été dit, Victor ne s'attarde pas à expliciter les motivations de Huniric. Mais dans le chapitre introductif de la partie sur Huniric, cité auparavant, il situe les persécutions consécutivement à de graves conflits internes à l'aristocratie vandale. Regardons-les de plus près. La relation entre le roi et l'aristocratie vandale était loin d'être sans tension. Nous apprenons qu'il y eut des conflits sanglants sous le règne de Genséric, et même si nous ne connaissons pas les détails. Les raisons ne laissent pas de doute. La création de l'État a totalement été axée sur le roi. L'aristocratie n'avait pas obtenu de rôle significatif. Le fondement du pouvoir royal était l'armée, astreinte entièrement au commandement du roi, et les chefs des troupes avaient été séparés de l'aristocratie d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un hasard si les oppositions avaient apparu suite au traité de 442. Seul le roi était l'allié de l'Empire romain et fut reconnu comme tel par l'empereur. La résistance aristocratique s'organisa jusqu'à élaborer des plans de renversement. Ceci coïncide avec une information souvent mal interprétée par la recherche. Peu après la signature du contrat 435, Jean Séric avait marié son fils Huniric, né en Espagne, avec la fille du roi des Visigoths. Mais, ultérieurement, la date n'est pas attestée, il renvoya la princesse chez son père à Toulouse, avec le nez estropié et les oreilles coupées. Il est improbable que ces événements se déroulèrent dans le contexte des fiançailles entre Huniric et la fille de l'empereur, Huniric ayant en quelque sorte obtenu des meilleures perspectives. Huniric, en effet, en châtiant sa belle-fille de cette manière, Jean Séric avait littéralement humilié le roi des Visigoths. Il aurait pu s'enterrir à meilleur compte avec une simple séparation. Non, Jean Séric devait avoir des preuves que la princesse ou même les Visigoths étaient impliqués dans le complot aristocratique de 442, qu'il réprima dans le sang, selon un chroniqueur. Ces événements ont amené la rupture définitive avec les Visigoths, et cela pour les 25 années à venir. Après cela, le pouvoir de Jean Séric était incontesté. Comment avait-il réglé sa succession? Nous n'avons aucune information précise à ce propos, mais l'institutionnalisation du pouvoir royal s'accompagne généralement d'un héritage du trône de père en fils. Mais Jean Séric modifia ses droits de succession juste avant sa mort. La recherche n'a pas assez pris en compte cette contradiction. Dans ce qui suit, nous tentons donc une reconstruction qui diffère de l'opinion commune. En fait, l'aristocratie vandale avait un prestige comparable à celui du roi, et la tradition d'une double monarchie vandale s'opposait à la monopolisation de la dignité royale dans les mains d'une seule famille. Toutefois, la migration vers l'ouest, sous un commandement unique, a dû favoriser une monarchie fondée sur le Königsglück, la fortune d'une seule personne, le dirigeant de l'armée. Jean Séric avait largement confirmé cette fortune, qu'il matérialisa notamment dans le palais de Carthage. Néanmoins, les sources attestent, nous venons de le dire, une mesure prise juste avant sa mort qui semble indiquer le contraire. Jean Séric décida que le fils du roi décédé n'héritait pas automatiquement du trône, mais que le pouvoir serait transmis aux membres de la famille royale de génération à génération. En premier succéderaient les frères du roi, s'il était encore en vie, puis les fils de la seconde génération en fonction de leur âge respectif. Le fils du roi décédé se rangeait aussi dans cette liste selon son âge. Il est peu probable que ce droit de succession ait été conçu pour éviter les crimes et les assassinats au sein de la famille royale, car ce système avait également du potentiel à conflit mortel. La volonté de Jean Séric était plutôt d'écarter les héritiers mineurs de la succession. La date de la mise en place du règlement semble en accord avec cette hypothèse. Peu de temps avant sa mort, Jean Séric pouvait d'un côté être certain que son fils Huneric allait lui succéder. Ce dernier n'avait plus d'oncle ni de cousin plus âgé que lui. D'un autre côté, Huneric était un homme âgé, un accédant au trône, alors que son fils à lui n'était qu'un enfant. Jean Séric pouvait ainsi contrer le danger d'un enfant roi. Et la mesure ne se portait pas contre son fils, mais contre son petit-fils, Hildéric. La décision de Jean Séric est désignée de loi par les sources antiques, et c'est pour cela que la recherche interprète comme une innovation. Cependant, il y a de bonnes raisons pour comprendre ce règlement différemment et pour le situer dans une tradition plus longue. Autrement, les événements postérieurs seraient inexplicables. Nous allons voir dans quelques instants qu'Huneric essaya malgré tout d'assurer la succession à son fils Hildéric en éliminant les candidats plus âgés. Si le règlement de son père avait été un simple amendement, il aurait pu éviter ces ravages dans la famille royale en annulant simplement la décision. Mais il n'en était pas ainsi. La réglementation de Jean Séric n'était pas nouvelle. Ses systèmes successoraux, le tanistry chez les peuples celtes, était une tradition en vigueur depuis longtemps chez les Vandales. Et Jean Séric l'avait seulement fait mettre par écrit. Puisque depuis 442, l'institutionnalisation du regnum rendait de plus en plus naturelle la succession de père en fils, Jean Séric renforça tout d'un coup la tradition vandale contre cette évolution qu'il avait lui-même portée en avant. Maintenant que la tradition successorale avait été vraiment inscrite dans la constitution du royaume, elle était en principe irrévocable. Huneric voulait cependant l'impossible, assurer la succession du trône à son fils. En considérant la nature humaine, il n'est nécessaire d'expliquer cette volonté uniquement si on ferme les yeux devant la force de l'égoïsme génétique, aussi irrationnel qu'il puisse paraître. Le roi ne pouvait massacrer toute sa famille. Il avait deux frères, Théodoric et Gento. Voilà les Huneric et ses deux frères, Théodoric et Gento. Ce dernier avait plusieurs fils. Huneric choisit donc de pousser les candidats les mieux placés à une rénonciation, plus ou moins volontaire, et n'hésita pas, en cas de désaccord, à faire usage de violence, d'exécution ou d'exil. Encore fallait-il obtenir le soutien des institutions vandales pour le droit de succession de son fils. L'armée, dont le roi était le chef incontesté, a dû consentir, mais il fallait, voici notre hypothèse de départ, obtenir l'accord d'une deuxième institution, l'Église arienne. Nous ne savons presque rien de celle-ci. Comme Victor de Vita n'avait aucun intérêt à faire sa présentation, les uniques informations que nous possédons sont tirées de quelques remarques faites en passant. Les Vandales avaient apporté leur Bible gothique en Afrique, mais aussi la liturgie gothique, un idiome propre aux Vandales, n'a visiblement pas existé. Les différences dialectiques entre le gothique et le vandalique, comment dire, nous sommes inconnus. De cette dernière, de la liturgie gothique, les sources nous en apprennent très peu. Nous connaissons du moins l'équivalent du Curia Eleison ou Domine Miserere qui s'articule Freia Arme. Voici le texte d'un passage d'un traité théologique contemporain. Alors, dicere non solum barbaris, lingua und so weiter. Also, il n'est pas seulement permis aux barbares de dire avec, dans leur langue, mais aussi aux romains, romanis, et voici, feuer, arme. Mais c'est la seule chose que nous connaissons. C'est deux mots. La prédication de la liturgie était assurée par le clergé qui avait accompagné la migration vandale. Réellement installé en Afrique, ce clergé arien a été l'usufructuier des expropriations ecclésiastiques dans la région d'occupation vandale. Il avait récupéré non seulement les églises, mais aussi d'autres biens immobiliers, les maisons et les terres. Toutefois, on ne remplaça pas simplement les espaces ainsi vidés par un équivalent arien. Il y avait des diacres, des prêtres et des évêques ariens, épiscopés, mais ces derniers n'étaient pas rattachés à une cité. Leur supérieur, le patriarche, résida évidemment à Carthage, mais il n'est jamais appelé évêque de Carthage. L'Église arienne conserva ainsi son organisation fondée sur la compétence personnelle, alors que les catholiques préconisaient une organisation territoriale. Le clergé arien restait affecté à des groupements vandales définis. On peut penser à l'organisation un groupe de 1000 personnes, comme lors de la traversée, mais nous n'en savons pas davantage. L'Église arien est intimement liée à la royauté. Le roi était l'incarnation de la mission divine avec laquelle s'identifiaient les pieux vandales, au moins depuis la traversée du détroit de Gibraltar. D'un point de vue plus pratique, il était le garant de l'existence de leur Église. De manière significative, il n'existe aucune indication quant à un lien quelconque entre l'Église des Vandales et l'Église visio-ostrogothique. L'Église arienne en Afrique pourrait ainsi être qualifiée de forme précoce d'Église nationale, sans la connotation moderne du terme national, bien sûr. Lorsque Victor mentionne le clergé arien en parlant des prêtres et des évêques du roi, ce n'est pas seulement de la polémique, mais aussi l'expression d'une orientation de l'Église envers le pouvoir local. Malgré cette dépendance, il ne faut pas oublier qu'en un demi-siècle de présence en Afrique, l'Église arienne avait connu une consolidation interne et une imbrication intime avec la société vandale. En tout cas, le roi ne pouvait pas se passer de l'accord de son Église, d'autant plus qu'il chercha à assurer le trône à son fils, malgré la loi de succession établie depuis longtemps et fixée maintenant par son prédécesseur. Comme son père, Huniric entretenait avec l'Église catholique une relation marquée par un certain pragmatisme. L'Église arienne avait forcément une attitude différente envers cette Église avec laquelle elle concurrait pour les mêmes biens. Il ne faut pas penser ici à la conquête des âmes des fidèles, car il n'y avait eu que très peu de tentatives de convertir des couches plus larges de la population catholique et le chemin inverse était de toute façon clôturé. L'enjeu principal était les propriétés ecclésiastiques ainsi que l'influence sociale et politique qui en découlait. Même si l'Église arienne était très proche du pouvoir royal et ne pouvait jamais être certaine de sa place compte tenu du fait que la grande majorité de la population provençale demeurait catholique. S'ajoutait à cela l'harmonie confessionnelle entre les catholiques africains et l'empereur de Constantinople. Cette crainte du propriétaire des Ariens en Afrique, qui n'était pas injustifiée d'ailleurs, comme on le verra lors de la chute des Vandales, apparaît dès le début du règne d'Hunneric, lorsque celui-ci autorisa pour la première fois depuis 25 ans la mise en place d'un évêque catholique à Carthage, auquel il attribua une église. Les catholiques des couches supérieures fréquentèrent ce lieu, même s'ils travaillaient à la cour, à la chancellerie par exemple. En signe de fidélité envers le roi, il portait des vêtements vandales particuliers. Cela nécessite une petite digression. Est-ce qu'il avait un costume des vandales? Cette question est bon exemple pour illustrer le danger d'une ethnicisation exagérée des phénomènes de la part des modernes, ou bien de la tendance de le voir léviter à tout prix. C'est vraiment une représentation romantique que de croire qu'une gens qui avait voyagé pendant des décennies à travers l'Empire romain ait conservé ses costumes d'origine, même si les éléments spécifiques à un costume vandal ont pu exister, mais nous n'en savons aucune certitude. Il faut supposer que les matériaux, les couleurs, les techniques, etc. ont évolué. Pourquoi les caractéristiques plutôt hasardeuses d'un costume auraient-elles été placées soudainement au centre de l'ethnicité vandale? D'autant plus qu'elles devaient principalement être liées à leur origine géographique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'habillait dans l'élite vandale à la romaine, car l'habillement était bien une question d'identité. Porter la tunique et la toge, ou bien le pantalon, véhiculait un message. Le pantalon était, chez les Romains, l'habit fonctionnel et normal du cavalier ou du soldat, par exemple, mais il n'était pas représentatif de l'élite. Mais Victor atteste ici de manière explicite et non préméditée qu'il existait pour l'élite vandale un habitus barbarus, clairement reconnaissable. Il est vraisemblable que les hommes portaient des pantalons et des manteaux drapés fixés avec une fibule et avaient des cheveux longs. Les femmes portaient des chitons à fibule et nous en avons même conservé une représentation, seulement une, représentation claire d'après l'inscription. Ce garçon de bonne famille à Tebessa, Teveste, est âgé de 5 ans. Si on avait voulu le représenter dans un contexte romain, le garçon aurait certainement porté un costume romain, caractéristique de la couche sociale à laquelle il allait se rattacher. Ici, la revendication est d'appartenir seulement à une élite guerrière, et cela veut dire qu'il s'agit d'une représentation non romaine. Il faut ailleurs supposer que ces habits ont été fabriqués par des Romains et en utilisant la technique romaine. Le message, par contre, témoigne d'une volonté de différenciation de la culture romaine. Ces deux aspects doivent être distingués. Toutefois, leur combinaison donne l'image d'une ethnogénèse en principe inachevée, stimulée par un environnement étranger et même construit avec les moyens issus de cet environnement, mais suggérant pourtant l'exclusivité. Les Romains, de l'entourage du roi, portèrent alors, en signe de fidélité envers le roi, ses vêtements vandales. Et c'est là aussi dans leurs églises. Pour le clergé arien, il était alors des vandales allant à la messe catholique, un modèle très dangereux, et on exigea de tuer ce mot dans l'œuf. À la tête du mouvement se trouva un évêque du nom de Cyril qui réussit à convaincre Hunneric. Je cite, « Le roi décida de placer des bourreaux aux portes de l'église. Voyait-il passer femmes ou hommes en costume national, il leur lançait sur la tête des petits bâtons munis de crochets dentelés au moyen desquels il agrippait les cheveux, et tirant avec violence, il arrachait en même temps que les cheveux tout le cuir chevelu. Certains à qui cela arriva en perdirent la vue sur le champ, d'autres succombèrent à la seule souffrance. » Il faut faire attention au caractère éminemment symbolique des cheveux c'est des cheveux longs, qui devraient être pris aux Vandales infidèles. Peu de temps après, Cyril devint le plus haut dignitaire arien, le patriarche. À ce moment-là, cependant, cette fonction était encore occupée par un certain Jucundus. À mon avis, la disparition de ce dernier est un rapport étroit avec le début des persécutions. Victor rapporte, à la suite de la citation précédente, le roi qui avait fait assez longtemps preuve de mansuétude à l'égard de tout le monde, désirant assurer la royauté à ses fils après sa mort, ce qui n'arriva pas, commença à s'acharner sans piété contre son fils Théodéric et ses enfants, ainsi que contre les fils de son frère Guinton. Et peu après, il rapporte il est entraîné à commettre une action encore plus cruelle. En présence de la foule, au centre de la ville, devant les marches de la place Neuve, il fit brûler sur le bûcher un évêque de sa propre religion, nommé Jucundus, qui avait reçu le titre de patriarche, pour la raison qu'il jouissait d'une faveur particulière dans la maison de Théodoric, le frère du roi, et que son soutien aurait pu permettre à la susdite maison de s'emparer de la royauté. Jucundus est écrit comme appartenant à la maison de Théodoric, je rappelle ici l'organisation de l'Église arienne expliquée auparavant. Il était donc d'abord le prêtre, plus tard on dira chapelain, de Théodoric et de sa famille. Il avait été placé ensuite, sous Jean Séric déjà, à la tête de la hiérarchie arienne. Mais visiblement, il ne pouvait pas ou bien il ne voulait pas consentir au basculement d'Uneric qui excluait Théodoric et l'ensemble de sa famille de la succession. Uneric interpréta l'opposition du patriarche comme une attaque de front, l'exécution publique du plus haut dignitaire ecclésiastique s'explique alors et révèle en même temps le rapport inégal entre le pouvoir pur et spirituel et le pouvoir séculier dans le royaume. Le successeur de Jucundus était le susdit Cyril, qui avait déjà intimement collaboré avec Uneric. Mais il en fallait davantage pour apaiser le conflit. Jusqu'alors, le roi avait-il soutenu par le patriarche et l'avancement. Mais la relation entre les institutions avait été fissurée aux yeux de tous. Et il n'a pas été aisé pour le roi de regagner la faveur du clergé arien. On peut présumer que le roi a dû apporter une preuve tangible pour perpétuer la coopération traditionnelle et réaffirmer sa place de protecteur de l'Église. Et c'est à ce moment précis, selon les affirmations du contemporain Victor de Vita, que débuta la première persécution systématique des catholiques. Nous avons déjà entendu cette phrase. Certes, Victor ne donne pas de lien de causalité, mais l'historien d'aujourd'hui est toutefois autorisé à voir un rapport entre les événements. À mon avis, uniquement ce rapport offre une explication suffisante pour la rupture dans la politique ecclésiastique d'Uneric, mais aussi pour le déroulement des actions postérieures. Et il existe une raison pour le silence de Victor. Il n'est pas historien et son but n'est pas de comprendre le roi, mais de le discréditer. Pour lui, Uneric représentait le mal et la représentation des contraintes de ce dernier et de ses inspirations tactiques entravait son discours. Les événements suivants sont décrits en détail chez Victor. En voici un résumé à partir de l'année 483, Huneric donna libre cours à une véritable persécution dans le but de démanteler l'Église catholique, du moins dans la région d'Afrique proconsulaire, et de permettre pour la première fois aux adversaires ariens de devenir l'Église unique, dans cette province. Ce temps des martyrs catholiques domine le récit de Victor. On procéda à des supplices des opposants, à des exécutions, même s'il était plutôt rare, et à des déportations massives des clercs catholiques vers le sud. Dans ce cas précis, nous avons des chiffres qui parlent. Environ 5 000 exilés se mirent en route accompagnés par leurs familles et enfants et par les sympathisants, entre autres Victor de Vita. Tous les évêques africains sous domination vandale furent contraints à se rendre à Carthage pour une sorte de conférence, un débat public. Le nombre de 459 évêques concernés paraît réaliste, un nombre que l'on peut alors mettre en relation avec l'ensemble de l'épiscopat africain, estimé à 600 évêques vers 420 après Jésus-Christ. L'interdiction en règle depuis quelques décennies de réoccuper un poste vacant avait porté ses fruits. Analyser le déroulement de cette rencontre au mois de février 484, caractérisé évidemment par la méfiance, la peur et la haine des deux côtés, et non pas par une discussion argumentée, dépasserait le cadre de cette conférence. Du côté du pouvoir, ce débat n'était qu'une farce pour intimider et marquer le début d'une nouvelle étape dans la persécution, car contrairement à ce qui avait été garanti auparavant, on n'autorisa pas les évêques à rentrer dans leur évêché. Les églises furent officiellement fermées, on les obligea à rester dans la capitale et à camper en dehors des murs de la cité. Soutenir ces évêques de n'importe quelle manière fut interdit. De plus, il fut ordonné avec un avis comminatoire à tous les sujets du roi, aux prêtres comme aux laïcs, de se convertir à l'arianisme et de se laisser rébaptiser dans un délai de quelques mois. Pour apprécier ces mesures et les suivantes, il est important de comprendre leur nouvelle portée. La politique religieuse de Jean Séric a été fonctionnelle, c'est-à-dire que le but recherché de l'action était proche l'un de l'autre. Ici, on dépasse en quelque sorte l'objectif de manière démonstrative. La phrase « parce que nous ne voulons pas qu'il y ait scandale dans les provinces que Dieu nous a données » s'applique à toute l'Afrique et non pas uniquement aux terres occupées par les guerriers vandales en Afrique proconsulaire. Selon Victor, le peuple comprit que ce scandalum, cet obstacle qui écarte du droit chemin, devait disparaître définitivement, dans le sens « nous ne voulons pas qu'il y ait catholique dans nos provinces ». Que Huneric ait réellement cru pouvoir supprimer la messe catholique en toute l'Afrique est improbable. Le pouvoir vandal s'affaiblissait et il n'avait pas les moyens d'exercer son influence sur les territoires loin de la capitale. Le décret royal était sûrement un signal adressé aux adversaires, mais il est invraisemblable que ceux-ci doutaient de la volonté du roi et de la gravité de la situation. En accord avec la thèse précédente, il me semble que le destinataire est ici le parti vandale et tout particulièrement l'Église arienne. La dernière disposition du décret du 24 février parle pour elle-même. Quant aux vrais adorateurs de la majesté divine, c'est-à-dire nos prêtres, nous décidons par le présent décret qu'ils doivent bénéficier de toutes les églises sans exception et des maisons de tout le clergé de l'obédience sudite, situé sur les terres et dans les régions qui, par la faveur de la divinité, sont soumises au gouvernement de notre règne en même temps que des biens qui dépendent, etc. L'alliance entre le roi et l'Église ne peut être exprimée plus clairement. Les fondements idéologiques et matériels de l'Église sont directement liés à la volonté du souverain. Plus tard, dans l'année, nous sommes déjà au début de l'été, s'opérera un changement inattendu qui n'est pas sans conséquence pour l'interprétation de la motivation d'Hunneric. Le roi fit une nouvelle offre aux évêques résistants. Jurez qu'après la mort du roi, notre maître, vous voulez pour roi son fils Hildéric, et qu'aucun de vous n'enverra des lettres outre-mer. Si vous en faites le serment, il vous rendra à vos églises. Il n'y a pas de raison de douter de l'historicité de cet épisode, d'autant plus si l'on trouve une explication sensée à cette action surprenante. Victor apporte que l'invitation à ce serment de fidélité et la promesse qui implique de récupérer son Église conduisit à des réactions très hétérogènes chez les évêques. La division de l'épiscopat plaide pour la véracité du récit de Victor. L'ensemble de son œuvre avait pour but de mettre en avant la détermination des persécutés. L'introduction d'une division fictive ne ferait pas sens ici. Mais pourquoi Hunneric avait-il besoin de l'accord des évêques catholiques pour légitimer sa succession? Les Romani ne faisaient même pas intégralement partie du royaume, comme l'indique le titre royal Rex Vandalorum et Alanorum. Est-ce que la finalité était de casser l'unité de l'opposition? Dans ce cas, la décision non unanime des évêques aurait dû récompenser les évêques loyaux et punir les désobéissants, mais en réalité, tous les évêques furent ensuite bannis. La proposition était, pour ainsi dire, une révolution. Pour obtenir une garantie sur leurs biens, les catholiques africains devaient renoncer à leur alliance avec l'Église impériale. Leur adhésion à la volonté du roi les transformerait, tôt ou tard, en une partie intégrante du Regnum Vandalorum. En considérant les décrets du février cités ci-dessus, l'importance du changement devient appréciable. Tous les appels à la vraie foi arienne dont le roi avait été chargé par Dieu sont ainsi remis en cause, de même que la garantie donnée par le roi sur les propriétés ecclésiastiques. Certains chercheurs voient ici une réelle opportunité politique. Mais si l'on va jusqu'au bout de cette idée et qu'on se rend compte de la situation d'Hunneric, on peut douter de cette conclusion. Malgré les efforts intenses et le grand engagement que le roi n'avait pas réussi à assurer la succession à son fils, dans l'ensemble, l'Église arienne s'obstina dans sa résistance. Les raisons et les sources de cette opposition nous sont inconnues. Que le roi n'abandonna tout de même pas son projet plaide pour notre hypothèse de départ. Le mobile très fort de ses actions d'Hunneric est à chercher dans la question de succession. Mais comment l'Église arienne aurait-elle réagi si Hunneric avait réussi à imposer sa mesure? En résumé, la proposition aurait mené à la nationalisation de l'Église catholique en Afrique. Mais n'y a-t-il pas déjà une Église nationale, à savoir l'Église arienne? En fait, l'application du décret aurait annoncé le début de la fin de l'Église arienne en Afrique. Une telle attaque aurait par conséquent conduit à un très large mécontentement et certainement pas à l'acceptation du droit de succession que le roi voulait imposer. Mais pourquoi donc Hunneric chercha-t-il à gagner la faveur des évêques catholiques au risque de perdre l'épiscopat à rien. Certains évêques catholiques ont pu être apeurés et démoralisés au point de jouer le jeu, mais au fond, les manœuvres tactiques du roi étaient reconnaissables. En effet, la cible était moins les catholiques que l'Église arienne. Nous avons ici la dernière tentative presque désespérée du roi. Il meurt en effet la même année pour faire décamper les évêques ariens de sa position concernant la succession d'Hildéric. Il a mis en œuvre des mesures dissuasives, pour ainsi dire, car en se réconciliant avec ses adversaires catholiques, il remettrait en cause la raison d'être de l'Église des Vandales. Si le plan du roi avait été ainsi, alors les évêques catholiques l'ont anéanti par un refus même partiel et le roi a rapidement abandonné son projet. Nous ne saurions jamais jusqu'où Hunneric serait allé dans le cas d'un vote positif unanime des catholiques. Mais il me paraît certain qu'il n'a jamais songé à leur restituer leurs églises. À cette époque, un tel retournement de situation aurait déchiré l'État vandale et le roi en était bien conscient. En tout cas, les environ 380 prélats, encore présents à Carthage, furent maintenant exilés. Le roi avait joué son dernier atout et ses plans stratégiques pour assurer la succession à son fils avaient échoué. Mais qu'en est-il des conséquences de ces mesures violentes dans le domaine ecclésiastique? Le démantèlement du clergé catholique a-t-il abouti? A-t-il été suivi de la conversion et du baptême arien d'une grande partie de la population, au moins en Afrique proconsulaire? Nous pouvons directement répondre par la négative. Ces changements auraient dû se produire dans l'espace des quelques mois entre la mise en place de la loi et la mort d'Hunneric à la fin de l'année. Son successeur Guntamund revient à la politique antérieure. Pour mener à bien la politique religieuse à l'image de Genséric, les mesures coercitives étaient toujours indispensables. Sur les terres des Vandales, les Sortes Vandalorum, l'Église catholique devait être invisible ou au moins silencieuse, peu importait la confession de la population et de l'élite romaine. Même après les agressions d'Hunneric, on ne pouvait pas se fier à la faiblesse de l'adversaire, mais il fallait la provoquer de façon continue. Ainsi, les évêques de la proconsulaire restèrent exilés et les désobéissances du clergé furent punies. Ceci demeura inchangé sous le roi Trasamund. Nous aimerions connaître les conséquences directes des mesures répressives de l'année 84, mais elles restaient malheureusement obscures. Victor n'en dit rien. Mais si on exerce une telle pression, il est vraisemblable qu'un certain nombre se plie aux propositions. Nous ne possédons pas de chiffres précis. Mais une liste des évêques de 484 est intéressant à ce propos. Cette liste, apparemment créée lors du débat forcé entre Ariens et catholiques à Carthage, et remaniée après la fin des persécutions, dresse les noms des évêques et de leurs cités respectives, suivis souvent d'une sorte d'abréviation. 90 évêques sont marqués par l'abréviation PRBT, ce qui signifie probablement Per Ivet à Per I. La recherche actuelle a compris que ces évêques ont renié leur foi. Mais comme un tableau récapitulatif à la fin du document, une sorte de totalisation de la liste commence justement avec l'indication de ces cas, perierunt, je doute de cette interprétation. Voilà, alors, axic fiunt omnes, c'est le total, ex quibus perierunt, numéro Octaginta, octo. Et après, permanzerunt, numéro trecenti, septuaginta, octo. Alors, ça commence avec les perierunt, les archives ecclésiastiques de Carthage, qui utilisaient une liste des évêques à l'époque la plus difficile de leur existence pour commencer à se réorganiser, auraient-elles vraiment présenté ces évêques déchus, les lapsi, en tout premier? N'oublions pas que les prélats étaient très âgés, car depuis 30 ans, aucun nouvel évêque n'avait pu être élu. N'oublions pas non plus les conditions difficiles dans lesquelles ils étaient contraints de vivre pendant les premiers mois de l'année 484. Suite à leur refus, ils avaient été attaqués, séparés de leurs compagnons et forcés de camper en dehors de la ville. Tout cela plaide pour une traduction littérale, plaide toujours pour une traduction littérale de perierunt. En comprenant néanmoins perivit dans le sens figuré d'une mort de l'âme, l'épiscopat aurait perdu, malgré les lourdes répressions, seulement un cinquième de ses membres. Un tel résultat n'était pas une réussite, mais aussi décevant qu'il ait été pour le roi, ces résultats étaient suffisants pour s'assurer l'hostilité décisive des attaqués dont l'existence avait été menacée. À la fin de cette année, Huniric mourut d'une maladie qui inspira ses adversaires et victimes à des descriptions pleines d'imagination et à des souvenirs d'autres persécuteurs célèbres. Le très scélérat Huniric occupa le pouvoir royal pendant 7 ans et 10 mois et il eut une mort appropriée à ses mérites, car pourri comme il était et grouillant des vers, ce n'était pas son corps, mais les lambeaux de son corps qu'il semble qu'on ait enseveli. Huniric est décrit comme le célèbre roi Hérode, prototype des rois persécuteurs, possédant les traits du mauvais roi Séleucide, assaillant les Maccabées et annonçant ainsi l'empereur Galère, puni par Dieu pour avoir persécuté les chrétiens. En réalité, nous ne savons pas de quelle maladie Huniric est mort. Les attaques du roi contre l'Église s'entendent sur moins de la moitié du règne d'Huniric. Elles deviennent pourtant, après la chute des Vandales, le signum exclusif de son gouvernement et le récit de Victor est en partie responsable de cette renommée. Grégoire de Tours adapta dans son Histoire des Francs du matériel provenant, on ne sait pas comment, de cette origine, ainsi le roi persécuteur Huniric devint célèbre au Moyen Âge. Que peut-on dire en conclusion sur Huniric, le roi persécuteur? L'interrogation dans le titre de cette leçon s'explique de deux manières. En premier lieu, il convient de ne pas généraliser l'emploi du terme, même pour les dernières années de son règne. La condition de base d'une persécution classique est d'avoir affaire à des victimes sans défense, et cela n'était pas le cas. Même si les Romains étaient placés sous la juridiction vandale et ne pouvaient faire appel, ils étaient partiellement protégés par la jurisprudence informelle de l'Antiquité tardive. La christianisation de l'Empire par Constantin avait instauré le principe de ne pas massacrer les adeptes d'une autre croyance chrétienne. Les évêques indésirables étaient expropriés, exclus de leurs droits et exilés, mais on ne les exécutait pas. Dans les grandes lignes, les Vandales respectèrent cette conversion. Mais si les couches inférieures de la population n'étaient pas forcément protégées par ce biais, les martyrs africains provenaient nota bene en majorité de cette couche. Il ne faut pas oublier les rapports de grandeur. Un groupe assez restreint des Vandales, le chiffre de 80 000 personnes lors de la traversée n'a vraisemblablement évalué que très peu, faisait face à une population romaine beaucoup plus nombreuse. Aucun indice ne plaide en faveur de la conversion d'une partie significative de la population ou indique qu'une conversion massive eût été la volonté des Vandales. Le pouvoir royal était forcé de s'accommoder avec l'existence d'une foule non intégrée dans le domaine religieux. Terroriser systématiquement et durablement les catholiques et les mobiliser peut-être davantage n'était pas dans l'intérêt ni une possibilité pour les dirigeants vandales. Cela n'empêche pas que certaines victimes furent torturées ou condamnées à l'exil. Pour eux, bien sûr, la persécution était une réalité amère. L'épithète du roi persécuteur est problématiquement pour une deuxième raison. Il cache les mobiles stratégiques de la politique religieuse d'Hunneric. À la manière de son père, Hunneric avait instrumentalisé l'opposition confessionnelle, même lors de ce changement de direction abrupte. Les motivations du roi n'étaient pas d'ordre religieux, et après 442, il avait vécu plusieurs années à Rome et avait été le garant d'une entente romano-vandale. Ironiquement, c'est pour l'héritier de cette entente, son fils Hilderic, appartenant à la famille impériale du côté de sa mère Eudoxia, que le roi essaya de gagner la faveur du clergé arien, ce qui le plongea dans une confrontation vaine, comme nous avons pu le voir. Il n'y a en effet aucun doute sur l'échec de la politique religieuse d'Hunneric, d'autant plus qu'elle s'était finalement, mais en vain, portée contre Gundamund. Ce dernier, et non pas Hilderic, succéda à son frère sur le trône de Carthage, comme la constitution de Genséric l'avait prévu, et Hilderic dut même attendre la fin du règne de son deuxième oncle Trasamond. Lorsqu'il accéda enfin au trône en 523, il était devenu un vieil homme. Le nouveau roi Gundamund ne poursuivit pas les mesures répressives de son prédécesseur. La destruction de l'église adversaire lui sembla un but inatteignable. Une réconciliation ne sera pourtant jamais atteinte. Les contradictions étaient trop importantes. L'œuvre de Victor de Vita, publiée, il faut le souligner, quelques années après la mort d'Hunneric, montre bien que la politique religieuse des Vandales avait mené dans une impasse. Le démantèlement de l'Église catholique avait échoué et aucune alternative politique ne se présenta. Que Victor et son entourage avaient cherché un échappatoire, même après la fin des persécutions et sous le règne d'un roi qu'Hunneric avait voulu écarter du trône, seulement en accusant violemment les Vandales et faisant appel à Constantinople, montre le manque de perspective. La possibilité d'associer au pouvoir des Romains, officiellement qualifiés de soumis, tout en leur laissant leur identité religieuse, n'était pas envisageable et l'Église catholique se présentait comme un adversaire intransigeant. Le lien entre les catholiques et Constantinople et leur enracinement en Afrique était insurmontable. Parallèlement, les Vandales ne pouvaient leur faire aucune proposition substantielle sans mettre en jeu leur propre Église et la cohésion de l'État vandale. Malgré sa courte durée et son échec, la politique ecclésiastique d'Hunneric était devenue déterminante dans la mesure où les deux successeurs gardaient pas son caractère coercitif, mais sa direction principale, et cette opposition des deux Églises mena les Vandales dans une réelle impasse. Dans la dernière leçon de ce cycle de conférences, nous allons voir si le roi Hilderic arrivait si tardivement au pouvoir, malgré les efforts de son père, réussira à sortir son État de cette situation délicate. Merci de votre attention.